Miyachem Alechem Tihyu, le Orechaim Tomim Shanim Naimi. Nous poursuivons notre étude de Parashat Miketz. Ezenu Beshem Adonai Yosef Shamaim Vaharetz. Donc, Yosef a été présenté à Pharaon. Pharaon lui raconte, lui fait le récit de ses rêves. Et après lui avoir expliqué les rêves, Yosef donne un conseil à Pharaon. C'est-à-dire qu'il lui conseille de faire des réserves, de savoir organiser le pays de telle sorte que les réserves puissent servir pour les années de disette et de famine. Ce qui, a priori, ne fait pas partie de la demande de Pharaon. Pharaon n'a pas demandé à Yosef de lui donner des conseils. Il lui a simplement demandé de lui interpréter le rêve. Donc, il lui a interprété le rêve, c'est un seul rêve, cette année d'abondance et cette année de famine. Yosef aurait dû s'arrêter là. Mais Yosef va au-delà et donne le conseil. Mais le conseil que donne Yosef, quand il lui dit « À présent, Pharaon doit choisir un homme intelligent, d'expérience, qui est savant, qui a de la connaissance, il va lui donner le pouvoir de gouverner l'Égypte afin d'organiser le pays en vue de faire des réserves de blé sur tout le pays. Ça, c'est en plus. Mais Yosef a compris qu'il s'agit de lui dans le rêve de Pharaon, de la manière dont Pharaon raconte le rêve. Voilà qu'au début, il est dit, au début de la paracha, il dit que Pharaon rêve, mais il est en Med Alayor. Donc, et voici qu'il est debout sur le Nil. Mais quand Pharaon raconte son rêve, il dit, Veiné ni Omed al Sefat Ayor. Et vous me voici debout sur la berge du fleuve. Et s'il y a une différence, comme nous l'avons souligné de par ailleurs, il y a une différence fondamentale entre la vision. Non, est-ce que quand le Passouk dit, c'est un point fondamental à comprendre. Quand le verset au début de la paracha dit, Vayimikesh nataim yamim ou paro holem. Voilà, la Torah nous introduit que Pharaon rêve. Ve'ine omed alayor. Et voici il debout, et voici il est debout sur le fleuve. De qui s'agit-il? A priori, il s'agit de Pharaon qui se voit sur le fleuve. Mais ici, il n'est pas dit ve'ineni omed alayor. Ve'ino omed. Et le voici. Il n'est pas marqué le voici debout sur le fleuve. Et voici debout sur le fleuve. Comme si que c'est impersonnel. Et là, quand il raconte, il dit, Vineni Omed al Sfatayo. Me voici. Donc, Pharaon se voit sur la berge. Donc, nous avons déjà souligné qu'il y a une différence fondamentale entre la position au-dessus, quand le personnage se positionne au-dessus du fleuve, et quand le personnage se positionne sur la berge du fleuve. Dans un cas, il influe, dans l'autre cas, il reçoit. Et Pharaon se voit, donc il comprend les deux positions, il voit les deux situations. Mais quand il parle, il dit qu'il est sur la berge, ce qui indique qu'il y a quelqu'un d'autre sur au-dessus du fleuve. Et quand Yosef interprète le rêve, Yosef a compris qu'en fait, le rêve de Pharaon le concerne à lui. Et qui est donc ce personnage qui est au-dessus du fleuve? Il s'agit de lui-même, de Yosef. Yosef, il est le fleuve, fait référence à l'abondance, la prospérité, le bassin d'abondance, ce qui va donner la réussite et la puissance de l'Égypte. Mais il y a au-dessus de cela, celui qui influe sur le fleuve, c'est le Yesod, c'est le fondement, et c'est la personnalité même et la qualité, la vertu qui est attribué à Yosef. Donc il s'est vu ainsi. Et alors, quand il lui donne ce conseil, il ne va pas au-delà de ce que Pharaon a demandé. Il est dans la démarche, il est dans la... Il remplit son rôle. Parce que c'est ça l'essentiel du rêve. Alors il dit, « Ve'atayre pharo ishnavon bechacham » Donc ce qu'il lui dit, à présent, Pharaon doit choisir un homme intelligent qui sache comment gérer les choses et préparer, faire un plan de 7 ans pour engranger, pour préparer les années de disette. Et Pharaon dit, « Vayomer paro el avadav, anim sakaze » Est-ce qu'on peut trouver un homme pareil? Ish, asher ruach Elohimbo, donc c'est l'esprit divin qui parle en lui. Alors il lui dit, il continue, voyons ma parole, Yosef, ahari odia elim et otra et kolzot, en lavon vechacham kamocha. Il n'y a pas d'autre que toi, après que Dieu t'ait dévoilé de telle chose, tu es l'homme de la situation. Atati albeti, yalpicha isha kolami, rakakise egdal mimeka. Donc tu seras le dirigeant du peuple, c'est toi qui vas gouverner. Et la seule chose qu'il y a, c'est que la seule chose, on t'appellera pas roi, tu seras pas roi, mais tu seras juste au-dessous du roi. Pas de différence, tu as les mêmes pouvoirs que le roi, mais la royauté me reste mon monopole entre mes mains. Et à ce sujet, la Gemara souligne dans Sota qu'il y a une discussion au moment où Pharaon choisit Yosef. Amar bechia baraba, amar rabbi Yohanan, b'sha sh'amar lo Pharao le Yosef u bil'ada lo yarim ish et yado. En dehors de toi, aucun homme dans l'Égypte ne pourra agir, de faire quoi que ce soit. Selon, il doit te demander conseil, c'est toi qui dois décider. Amro, alors les savants de Pharaon, les ministres, Amro Paro, alors ils ont demandé à Pharaon, ils ont objecté. Il dit, Evet Shelakro Rabo Besim Kasef, au départ, Yosef a été acheté avec 20 pièces d'argent. C'est lui qui va gouverner l'Égypte. C'est entre lui que tu remets notre destinée. Amro Lo Imken Yehodea Beshimim Lachon. Alors il lui a dit, j'ai vu que c'est lui qui peut sauver les Amar Lahem, Ginune Malchut Aniro Ebo. Je vois qu'il a des capacités, il est destiné à de grandes choses. Amrou, ils ont dit alors, Amrou lo imken yodea beshirim lachon. Mais voilà que le roi d'Égypte est obligé de connaître les 70 langues. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Beshirim lachon, ba Gabriel velimdo shirim lachon. Et Gabriel, l'ange Gabriel, est venu avant. Lui enseigner les 70 langues. Lo ava gama. Et Yosef n'arrivait pas à les assimiler. Aussi flo ot ahad nishmoshe la kadosh baruchu. C'est pour cela que le nom de Yosef, dans le psaume, il est dit, Yosef. Le nom de Yosef est écrit avec un ré supplémentaire. Vilimet shenema edut be Yosef samu beseto aleres mitzrayim. S'efface le de Tiechma. Yosef ne comprenait pas, il n'arrivait pas à assimiler les langues, alors on lui a ajouté une lettre du nom de Dieu. Ulmaha, kolishna dishta e paro behade. Donc le fameux midrash qui dit que Yosef, à chaque pharaon lui parlait une langue et Yosef lui répondait dans la même langue. Donc Yosef lui répondait. C'est comme s'il y avait 70 marches devant pour arriver au trône de Pharaon, et à chaque marche, il fallait répondre dans la langue que Pharaon lui s'adressait à lui. Alors, Yosef lui répondait. Alors, arrivé à la fin, Yosef a parlé en lâchant la Kodesh, et Pharaon n'arrivait pas à répondre. Alors, il lui a appris. Alors, la Gemara, elle dit, « Amarle gmora agmere »« Amarle agmere » Il dit, « Je vais t'apprendre. » Agmere velo gamar, il n'arrivait pas à l'assimiler. Amas, à ce sujet, il est dit que Pharaon lui a fait jurer de ne pas dévoiler que lui, Yosef, connaissait une langue supplémentaire que Pharaon n'arrivait pas à assimiler. Et c'est grâce à ce serment que plus tard, quand Yosef voudra quitter l'Égypte et enterrer Yaakov en Israël, et il lui dit, mon père m'a fait jurer. Alors il lui dit, tu peux annuler le serment? Il dire, si j'annule le serment de mon père, je peux aussi annuler ton serment, le serment que tu m'as fait jurer de ne pas dévoiler le fait que je connaisse une langue plus que toi, mieux que toi. Il y a une langue que tu n'arrivais pas, que tu n'arrives pas à assimiler. Il y a lieu de s'interroger sur la nécessité que les rois d'Égypte sachent 70 langues. Pourquoi, il n'y a pas des interprètes qui peuvent traduire s'il a des relations diplomatiques avec les uns et les autres? Il y a des interprètes. Pourquoi il était, on dirait, dans la loi fondamentale de l'Égypte que le roi sache les 70 langues? Alors, pour comprendre ça, il s'agit de remonter à l'époque de la tour de Babel. Alors, à la fin de Parashat Noir, il est dit que Vayi Kola Har et Safa Ehad, la terre entière parlait une seule langue, Udvarim Ahadim, et les gens et ces paroles-là les unissaient, ils étaient tous unis. Rachid dit Safa Ahad, la chante à Kodesh. Udvarim Ahadim, Ba'u Be'etza Ahad. Donc ils avaient une seule langue, ils parlaient une seule langue, donc la chante à Kodesh. Et ils sont venus tous avec la même idée. Ve'amru lo kol hemenu shibor lo elyonim. Donc ils ont dit, le pasuk dit, les cieux appartiennent à Dieu et la terre appartient aux hommes. Que Dieu reste dans les cieux et que les hommes puissent s'occuper. On veut éliminer Dieu de notre quotidien. Quand Kadosh Baruch Hu, il reste dans les, certes Dieu a créé le monde, qu'il reste dans les cieux, mais le quotidien il va se faire selon la volonté des hommes. Donc c'est ça l'idée qu'il y a ici, qu'il voulait créer la ville et la tour. Et le pasuk dit, « Hava nivne vayomer ish el rehu » un homme dit à son prochain, « Hava nilbena leveni venisrefa lesrefa vtilaema levena laaven vayomro hava nivne la noyer » venons, nous allons construire une ville avec une tour à son sommet jusqu'au ciel. Et non, c'est la Nouchem, afin que nous fassions une renommée, un nom. Peine à faute à peine colarise, de peur que nous dispersions à la surface de la terre. Rachid dit, de qui s'agit-il? Qui sait? Qui a dit à qui? Ish el Reu, Uma el Uma, les peuplades, chaque peuplade, une peuplade a dit à l'autre, à sa voisine, à la peuplade voisine. Rachid rajoute, Mitzraim les couches. Et ici, il se mentionnait les quatre enfants de Ham, qui sont Kush, Put, Mitzrayim et Kenan. Mitzrayim les Kush, les Kush les Put, les Put les Kenan. Donc les quatre enfants de Ham. Donc alors le premier qui a l'idée, c'est Mitzrayim. Donc dans les Midrashim, c'est marqué que Mitzrayim, il avait l'idée, c'est lui l'idéologue du concept de la tour de Babel, et c'est lui qui a dit à Nimrod, et c'est Nimrod qui a mis la chose en pratique, en application. Donc l'idéologie de créer un monde où ne règne que la matérialité absolue et qu'il soit vidé de spiritualité. La spiritualité, c'est pour les cieux. Dieu réside dans les cieux. Nous faisons en sorte que Dieu n'intervienne pas en ce monde et qu'il laisse les hommes agir selon leur bon vouloir, selon leur concept de matérialité, c'est l'idée de Mitzrayim. Et bon, après ça, donc Akadosh Baruch Hu descend et disperse les nations, dit par les langues, etc. Donc et Mitzrayim va avec les gens qui parlent sa langue et s'installe en Égypte. Donc c'est lui, c'est son nom qui va, c'est lui qui donne son nom au pays. Mitzrayim signifie l'enfermement. L'enfermement dans la matérialité. C'est ça l'idéologie. Maintenant, donc ils vont créer une société au niveau national où, qui reprend l'idéologie première de la tour de Babel. Donc on crée un monde de matérialité absolue, totale, où l'homme est là pour jouir des bienfaits de ce monde, en éliminant tout concept de spiritualité. Et pour ce fait, on crée des idoles. La même chose, il s'est passé à d'autres périodes où on a éliminé, on a éliminé la spiritualité, on a remplacé les dieux, entre guillemets, par des personnages. Donc c'est ce que l'Égypte fait. Mais l'Égypte n'a pas perdu son projet de convaincre l'ensemble de l'humanité d'adopter cette idéologie. Donc c'est pour cela, le porte-drapeau de l'idéologie de Mitzrayim, c'est Pharaon. Et Pharaon, pour arriver à convaincre les autres, il doit connaître leur langue. C'est pour ça qu'en Égypte, il fallait connaître les 70 langues. Maintenant, quand Yosef arrive, l'ange lui apprend les 70 langues. Il ajoute une lettre à son nom. Donc, c'est-à-dire que les 70 langues qui sont en fait des dérivés de la Shona Kodesh, qui a priori ne sont pas accessibles à celui qui est plongé dans la sainteté, on lui donne cette possibilité-là. Donc c'est comme si le fait de savoir les langues et de les utiliser à bon escient, c'est comme si qu'on les fait réintégrer leur source initiale. Et Pharaon, quand il voit que Yosef connaît les 70 langues, Yosef lui ajoute une langue que Pharaon ne comprend pas. Et donc, il essaie de lui enseigner, et Pharaon n'assimile pas bien qu'il soit doué pour les langues, mais il n'arrive pas à assimiler. En réalité, c'est pas la langue qu'il n'arrive pas à assimiler, c'est le concept de la langue. C'est que le concept des 70 léchonotes des nations, en réalité, tire leur source et leur puissance du Lachon à Kodesh, le langage de la création. Donc, c'est pour ça que, par exemple, nous faisons Ouvalet Sion et nous traduisons en langue araméenne. C'est pour ça que nous faisons Shne Mikra Vehat Targum en Targum. Parce que la première langue qui découle de la Shona Kodesh, c'est le Targum. Et les autres langues sont des dérivés. Donc en faisant réintégrer le Targum à sa source, donc on c'est comme si qu'on affaiblit les Kohot Atuma, les forces d'impureté qui sont employées par les nations et les autres langues. Donc c'est ça l'idée ici que Pharaon n'arrivait pas à comprendre. Donc il le fait jurer. Ça c'est l'idée fondamentale de le pourquoi les Égyptiens devaient connaître les 70 langues. Mais non, ces 70 langues-là, l'idéologie, c'est qu'il y a Dieu. C'est vrai que Pharaon lui-même dit « Achere el odia elim et kolzot ». Pharaon, quand Moshe se présente à lui, il lui parle au nom de Dieu, Yudke Vavke, Hachem. Et Pharaon lui dit, je ne connais pas Hachem. Alors il va chercher dans son encyclopédie et il ne trouve pas. Il dit, quel Dieu tu connais? Je connais Elohim. Donc il connaît le nom de Dieu Elohim. Qu'est-ce que c'est Elohim? Elohim, c'est le nom que Dieu emploie. Elohim, ça veut dire celui qui détient le pouvoir. Donc, le Shem Havaya Baruch Hu confère le pouvoir d'action au Shem Elohim. Le Shem Elohim, ça veut dire la nature. C'est ce nom-là qui agit dans la création. Tant que les deux sont associés, tout va bien. Mais quand les hommes s'accaparent ce pouvoir et éliminent la source du pouvoir, Yudke Vavke, donc ils laissent Dieu dans les cieux et sur terre, il n'y a que Elohim. Donc c'est l'excès. On tombe dans l'excès de Elohim, on tombe dans le concept des Elohim Aherim. Donc les hommes s'accaparent et fabriquent des idoles. C'est le concept même de la Avodah Zarah. C'est-à-dire qu'il s'agit de détacher la force vitale, les énergies vitales de qui permettent au monde d'exister, de leur source. Donc on va leur conférer, on va les qualifier d'un autre mot. L'âme qui permet au corps de vivre, on ne va pas dire que c'est une âme spirituelle qui vient de Dieu, on va dire que c'est une source indépendante. C'est ça Elohim Aherim. Et c'est ça la philosophie de l'Égypte. Et pour ça que quand Yosef lui parle en la Shona Kodesh, il veut lui enseigner, il n'arrive pas à comprendre. Donc il le fait jurer. Grak akise gdal mimeka. C'est seulement ce trône qui distinguera entre toi et moi. C'est la seule chose qui fera que je reste au-dessus de toi. C'est ça le serment qui lui fait jurer. Donc ça, nous avons compris un petit peu la raison pour laquelle les Égyptiens devaient parler autant de langues. Et c'est à cela que fait référence Pharaon quand il nomme Yosef. Vaikra paro shem Yosef, Safnat Parnea. Safnat Parnea, Rashi dit, Mefaresh Atsefunot, celui qui explique ce qui est enfoui, ce qui est caché. Et il n'y a pas d'autre terme, cette expression n'est pas employée ailleurs dans le Mikra. Donc c'est l'idée, c'est-à-dire que le Shem Elohim, Yosef dévoile que dans le Shem Elohim, il y a à l'intérieur du Shem, le Shem Elohim n'est que le vêtement, le revêtement ou l'enveloppe qui cache le Shem Havaya Baruch Hu. C'est ça l'idée de Tzafnat Parner. Et ça, Pharaon n'a pas accès. Il reste dans le concept de l'extériorité des mondes. Il reste dans la matérialité. La matérialité, c'est ce qui est apparent. Il reste dans l'apparent. Mais l'intériorité des choses, le fond des choses, il n'a pas accès. C'est ça l'avantage que Yosef, il a ici sur Pharaon. C'est ça l'idée qui est mentionnée que, en Égypte, les âmes qui vont se retrouver en Égypte sont en fait la reconduction des âmes qui ont participé à la tour de Babel. C'est la réparation. Le fait, les gens qui sortiront d'Égypte sont en vérité ceux qui ont les âmes des individus qui ont été réparés au cours des générations et qui ont causé justement la dispersion de l'humanité en différentes nations par le fait qu'ils ont voulu s'unir en chassant Dieu, en créant une société où ne règne que où on ne fait pas de place à Kadosh Baruch Hu. Et la progression, alors la réparation va être progressive, et c'est là l'idée que quand Yosef veut les Égyptiens demandent à Yosef de les nourrir, il leur impose à faire la Brit Mila. Ça s'inscrit dans l'étape, une des étapes de la réparation de leur être, afin qu'ils puissent un jour comprendre qu'il y a quelque chose d'autre au-delà de la matérialité, il y a la présence divine. Baruch, c'est à cela que, pour cela qu'il y aura les Makot. Les Makot sont la manifestation directe du Shem Havaya Baruch Hu, sans passer par les voies naturelles. Les règles de la nature sont dépassées. C'est le sens même du miracle, des miracles prodigieux qui vont se dérouler à la sortie d'Égypte. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.